One, two, one, two.
Parlons vrai avec BNP Paribas.
Ma voiture a été volée. Je me déplace en trottinette?
Mais non, chez BNP Paribas. En cas de vol, on vous prête une voiture pendant 30 jours.
Ah, parce qu'avec trois enfants et un chien, la trottinette.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance auto BNP Paribas assurée par Avansure. Information en agence et sur bnpparibas.net.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Vous êtes nombreux à nous rejoindre chaque jour sur Europe 1 en direct ou grâce au podcast pour suivre Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes heureux de cette confiance sans cesse renouvelée et pour tout vous dire, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour en être digne. Aujourd'hui Julia, j'aimerais vous raconter une histoire inouïe qui a été dénichée il y a un bon siècle par le cher Gosselin le Nôtre, notre pape de la petite histoire. C'est le cas de Mademoiselle Savalette de Lange qui à sa mort s'est révélée être un homme.
Eh bien, cette drôle de demoiselle fera donc l'objet de votre récit, Franck, tout à l'heure à 13h30. Mais en préambule, vous souhaitiez nous parler de ce phénomène un peu oublié de l'histoire, celui du travestissement.
Exactement. Le cas de Savalette de Lange est loin d'être le seul connu. En compagnie d'une grande spécialiste de la question, nous allons donc parler des travestis des deux sexes.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Aujourd'hui, à l'heure des modes unisexes et des héros métrosexuels, des hommes fashion victimes et des femmes cougars, des femmes d'affaires et des hommes battus, les marques extérieures de la différence entre les genres ont tendance à s'estomper un peu, en tout cas dans les modèles que présentent les médias. Il n'en a pas toujours été ainsi, évidemment, et si vous remontez ne serait-ce qu'un siècle en arrière, vous verrez que la différence d'habits, bien entendu, mais aussi de langage, de tenue, de comportement entre les hommes et les femmes était nettement plus marquée, sauf exception. Eh bien, ce sont ces exceptions qui nous intéressent aujourd'hui, qu'il s'agisse de femmes qui, souvent pour intégrer des communautés religieuses, militaires ou scientifiques, se faisaient passer pour des hommes, ou d'hommes qui, c'était encore moins accepté, se sont fait passer pour des femmes. Deux exemples de ces derniers sont restés célèbres. C'est l'abbé de Choisy, bien entendu, qui fréquentait la cour de Louis XIV habillé en femme. Ça, c'est un cas tout simplement sidérant. Nous allons y revenir dans un instant. C'est encore le célèbre chevalier Déon qui a dû se présenter à la cour de Louis XVI, lui aussi en robe et cotillon. Il y a quelques années, dans le joli film Beaumarchais l'insolent, on pouvait entendre cet échange entre Beaumarchais, alias Fabrice Lucchini, et le chevalier-chevalière, alias Claire Nebout.
Eh bien, commençons à négocier.
Dame, nous sommes là pour ça.
Dame est le mot, n'est-ce pas?
C'est l'un des deux possibles. Allons, posez-moi la question qui vous brûle les lèvres.
Êtes-vous une femme?
Qu'en pensez-vous, mon cher? Homme?
Ah non, 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 j'ai dit... Mais...
Méfions-nous. La conviction la plus absolue ne vaut pas une petite preuve.
Bon, revenons-en aux faits. Chevalier, le roi n'ignore pas votre désir profond de revoir la France.
Que devrais-je faire pour revoir mon pays?
Négocier avec moi le rachat d'un certain projet de notre cher souverain.
Quel intérêt aurais-je à me séparer d'un tel document?
Un intérêt sonnant et trébuchant.
Combien?
500 000.
Oh, il trébuche, en effet.
Le chevalier Déon était interprété par une femme à l'écran, mais son identité ne fait aucun doute. Pour autant, il s'agissait bien d'un homme qui s'est vêtu et comporté en femme, longtemps par choix et puis finalement par... décision, par ordre du roi. Alors la question que posent tous ces cas, plutôt rares mais d'autant plus frappants, c'est celle du regard que la société a porté au fil des siècles sur l'appartenance au genre masculin et féminin et sur le jeu plus ou moins avancé, plus ou moins conscient et maîtrisé, le jeu sur ces genres. Les œuvres de fiction sont pleines de jeunes filles qui, pour intégrer tel ou tel milieu masculin, doivent se déguiser en page, en serviteur, en moinillon, prétexte à d'infinies variations suggestives. Évidemment, lorsque ce sont des hommes qui doivent se travestir en soubrette ou en nonne, on passe très vite du registre de la séduction trouble à celui de la franche comédie. Cela aussi, c'est un sujet de réflexion. Et l'on songe au vers célèbre de Sully Prudhomme. Son inutile sein n'offrait ni lait ni flamme, en s'y posant l'oreille hélas eut découvert un cœur d'homme où chantait un pauvre cœur de femme comme un oiseau perdu dans un temple désert. Le travestissement et plus généralement la confusion des genres au sens propre ont-ils toujours été cause de souffrance? C'est ce que je vous propose de demander maintenant à une experte de la question.
Avant votre récit, nous vous retrouvons, Franck, avec votre première invitée sur Europe 1, Sylvie Steinberg, qui est historienne et auteure d'ouvrages sur le travestissement, notamment la confusion des sexes, le travestissement de la Renaissance à la Révolution. C'est disponible chez Fayard.
Bonjour Sylvie Steinberg.
Bonjour.
Alors merci d'essayer d'éclairer un peu notre lanterne sur un sujet assez subtil, disons-le. Il faut peut-être qu'on distingue d'emblée les femmes qui se travestissent en hommes et les hommes qui se travestissent en femmes. Ce terme d'ailleurs de travesti a un peu évolué avec le temps. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, il voulait simplement dire changer, déguiser en quelque sorte. Pourquoi est-ce que les femmes s'habillent-elles en hommes ?
Alors, les femmes s'habillent en hommes, disons qu'on va dire d'emblée qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à s'habiller en femmes. Et l'histoire ou la mémoire, je ne sais pas, a plutôt retenu des cas singuliers d'hommes dont vous allez parler tout à l'heure. Le chevalier d'Eon choisi en particulier. Bon, Eon qui est très connu évidemment des cruciverbistes, mais il y a disons au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup plus de femmes qui se sont déguisées en hommes, mais qui n'ont pas forcément eu une postérité très importante.
Mais c'était un choix d'identité ou c'était une nécessité pour telle ou telle raison? C'est peut-être là qu'il faut établir une distinction.
Oui, alors là vous posez une question qui évidemment est une question difficile pour un historien ou une historienne puisque vous interrogez d'emblée la psyché des personnages.
Voilà,
oui. Or, bon, cette psyché, elle est quand même très très difficile à explorer hein, pour des périodes très anciennes où on a des documents qui sont quand même assez laconiques en général sur les motivations, disons, des travestis. Alors, disons qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites à travers toute l'Europe d'ailleurs, hein, puisque en fait, à travers le Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne, puisque vous avez énoncé tout à l'heure, enfin, vous avez fait allusion tout à l'heure aux romans, aux théâtre,
oui,
etc.
Voilà, oui.
Bon, alors disons que entre le XVIe et le XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution, on a quand même beaucoup de traces de ces femmes en Angleterre, en Hollande, dans l'Empire germanique, en Espagne, en France. Hein, et donc, bon, moi, j'ai fait une étude sur la France. Et ces femmes, elles ont des motivations qui sont relativement semblables à travers toute l'Europe. Donc, ce sont souvent des femmes qui sont très pauvres, qui sont souvent sans famille, orphelines ou en rupture de ban, très jeunes. Hein, elles ont l'âge de se marier. Et puis elles n'ont pas forcément.
Donc elles sont un peu déclassées
en
quelque sorte.
Elles sont un peu déclassées et souvent elles vivent aussi dans des régions qui sont des régions qui sont ravagées par la guerre. Donc on les trouve dans les armées. Hein. Alors on les trouve, c'est-à-dire qu'on les trouve quand elles sont découvertes, hein, c'est-à-dire quand les officiers supérieurs ou quand leurs compagnons découvrent la supercherie. On les trouve dans les archives judiciaires. On les trouve aussi, ça c'est une spécificité sans doute de l'Angleterre et de la Hollande, étant donné leur puissance maritime, on les trouve sur les navires. Hein, et donc il y a beaucoup de Hollandaises en particulier qui ont été trouvées, découvertes dans les fameux, sur les fameux navires de la VOC, la Compagnie des Indes Orientales Hollandaises.
Il y a une passage qui se faisait passer pour un passager, c'est Jeanne Barret au XVIIIe siècle.
Oui, alors Jeanne Barret, elle est peut-être la plus connue de ces travestis. En tout cas, bon, elle a laissé une petite trace au moins dans l'histoire puisqu'elle apparaît dans le récit que Bougainville fait hein, de son voyage
le
à
voyage
Tahiti.
De Bougainville, oui.
Et puis dans le supplément que Diderot a consacré à ce voyage. Alors Jeanne Barret, c'est elle est exactement dans, je dirais, le type que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'elle est orpheline. Elle est relativement jeune, enfin elle a 27 ans, donc elle est plus si jeune que ça pour l'époque, disons. Elle est sans le sou. Hein, et elle décide de s'embarquer donc auprès du botaniste de l'expédition qui s'appelle Commerson et de partir. Et donc Bougainville dira qu'elle est la première femme à avoir fait le tour du monde finalement avec lui.
De fait, oui.
De fait, de fait. Alors bon, elle est restée donc pendant un an sur ce navire. Et pendant un an, les marins ont eu des soupçons, disons, hein, des soupçons sur sa timidité, sur sa pudeur, sur sa réserve, etc. Et chose très significative d'une certaine façon de cette différence des sexes dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que quand elle est arrivée à Tahiti, les Tahitiens, eux, n'ont eu absolument aucun doute, c'est-à-dire qu'ils ont cessé ces tergiversations. Et pour Diderot, qui relate l'anecdote, c'est tout à fait significatif précisément du côté artificiel de la différence des sexes qu'il dénonce à son époque, c'est-à-dire cette éducation extrêmement formelle, extrêmement religieuse.
Rigide. Des
corseté, rigide, oui, disons-le, corseté oui. que l'on donne aux filles, qui fait qu'on ne cherche à faire d'elles que des coquettes, hein, des filles qui s'intéressent à leur tenue, qui s'intéressent évidemment à leur mariage. Et pour lui, donc, cette aventure révèle le côté tout à fait non artificiel qui existe dans la société tahitienne, qu'il voit par ailleurs dans leurs mœurs. Hein, leurs mœurs, l'amour sans entrave, disons.
Le bon sauvage.
Voilà. Et ça fait partie, en effet, voilà, de ce mythe du bon sauvage qui est capable de différencier les sexes de manière naturelle.
Et qui n'a pas besoin de tous ces artifices. Alors, on a bien compris que lorsque les femmes se déguisent ou s'habillent, se travestissent en hommes, ça ne pose pas vraiment de gros problèmes. Ça en pose de bien plus grands lorsque ce sont des hommes qui se travestissent en femmes.
Che farò senza Euridice, extrait de l'opéra de Gluck, interprété par Andreas Scholl, qui est un contre-ténor allemand.
Oui, n'est-ce pas ? Alors c'est étonnant d'entendre cette Euridice en italien, mais ça nous permet de profiter de la voix merveilleuse d'Andreas Scholl. Et ça nous permet aussi d'évoquer avec vous, Sylvie Stenberg, toute la partie théâtrale de la question. Parce qu'évidemment, pendant très longtemps, les rôles d'hommes sur le théâtre, alors c'était d'autant plus vrai dans les pays protestants, et je pense notamment à l'Angleterre, mais les rôles d'hommes étaient tenus par... Les rôles de femmes, pardon, étaient tenus par des hommes. Donc il y avait là un travestissement quasi nécessaire.
Oui, alors ça c'est vrai dans le théâtre anglais surtout, on a du mal à se le rappeler quand on va au théâtre admirer une pièce de Shakespeare, mais il n'y avait que des hommes sur scène, ouais. Et des hommes qui jouaient des femmes, mais aussi des hommes qui jouaient des femmes se travestissant en hommes ou des hommes se travestissant en femmes.
C'est donc là que ça devient baroque.
Voilà, donc là il y avait un jeu bien sûr sur l'identité et sur le jeu, enfin sur le jeu d'acteur, hein, évidemment. Bien sûr, il y avait des rôles qui étaient attribués en fonction de la physionomie, de l'apprentissage, etc., y compris à l'opéra, comme on vient de l'entendre. Mais il y avait aussi nécessité pour ces acteurs de jouer sur le genre, hein, en permanence, puisqu'ils étaient en effet voués à avoir des parcours dans les pièces assez complexes.
Alors, nous avons vu avec vous que assez souvent, on rencontre donc des femmes. On en a dans les archives militaires, dans les archives ecclésiastiques, etc. Et bien sûr, dans la procédure judiciaire, des femmes qui ont été amenées à se travestir en homme. Les cas d'hommes qui s'habillent en femmes sont plus rares.
Oui, ils sont extrêmement rares et ils sont, plutôt documentés, puisque leur rareté fait qu'ils ont attiré davantage l'attention que les autres. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que la désapprobation est tout à fait asymétrique. C'est-à-dire que les femmes dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsqu'elles sont découvertes par un officier, par un policier, elles ont en général un traitement qui est un traitement extrêmement magnanime. Très souvent, on admire leur bravoure si elles ont été soldates, on les compare à des héroïnes passées, aux Amazones, bien évidemment, qui est le grand archétype de la femme héroïque. Eh oui. On les compare justement à ces personnages de théâtre, à ces personnages de romans qui ont peuplé la littérature depuis la Renaissance, hein, dans l'Astrée, dans les romans italiens de la Renaissance, etc. Et très souvent, elles rentrent chez elles avec une pension. Et c'est vrai aussi sous la Révolution française, quand un certain nombre de femmes s'engagent dans les armées pour défendre la patrie, disons. Donc il y a une indulgence qui n'est pas du tout symétrique.
Et à côté de ça, même si on n'est pas du tout indulgent pour les hommes qui s'habillent en femmes, il y en a qui l'ont fait et qui l'ont fait sans problème. On pense évidemment toujours au grand exemple de l'abbé de Choisy, qui quand même, à la cour de Louis XIV, lorsqu'il ne prêche pas, je dis bien, lorsqu'il n'est pas dans ses fonctions ecclésiastiques, s'habille en femme. Et ça n'a pas l'air de poser tellement de problèmes.
Oui, ça n'a pas l'air de poser tellement de problèmes. Ça en pose quand même à sa hiérarchie ecclésiastique. Bon, il est abbé, hein, malgré tout. Il faut bien voir, je pense, qu'il s'agit quand même d'un personnage de haut rang.
Oui, voilà.
On n'est pas du tout chez les campagnards, hein, on n'est pas chez les bons bourgeois. On est à la cour, précisément, et avec un personnage qui est tout à fait singulier. dans son parcours et qui a lui-même décrit ce parcours à la fin de sa vie en écrivant donc les mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme. Ce qu'il dit de lui-même et éventuellement de l'indulgence dont il a été l'objet, sont peut-être largement exagérés hein, malgré tout. Alors c'est un personnage totalement singulier en effet, c'est quelqu'un qui a été élevé à la cour dans le sillage de d'Anne d'Autriche puisque sa mère était une suivante disons d'Anne d'Autriche et visiblement sa mère a sciemment chercher à l'habiller en femme au-delà de l'âge requis, puisque, bon, comme certains auditeurs le savent sans doute, les garçons étaient habillés en filles, les garçons, à peu près. Et donc, lui a été habillé en fille au-delà de cette limite, en même temps que le frère de Louis XIV, donc Monsieur Philippe. Et il suggère, et c'est assez intéressant, que le travestissement de ses enfants avait une raison politique, hein, c'est-à-dire en particulier celui de monsieur, dans la mesure où Louis XIV aurait cherché, et surtout sa mère, à faire en sorte que son frère ne soit pas aussi empoisonnant que l'avait été Gaston pour Louis XIII. Voilà. Quelque chose qui est tout à fait singulier au départ.
Un siècle plus tard, on a évidemment le cas archi-célèbre du chevalier Déon. Alors, on ne va pas revenir sur le chevalier Déon, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler souvent ici. Une chose étrange, c'est cet ordre de Louis XVI qui l'oblige, sur les dernières années de sa vie, à ne se présenter en public qu'habillé en femme. Pourquoi cet ordre royal ? C'est une façon d'humilier le chevalier Déon pour Louis XVI ?
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une humiliation. Quoique les conséquences étaient de ce type, puisque contrairement à ce qui a été entendu tout à l'heure dans l'extrait du film, Éon n'avait certainement pas une physionomie ni une voix
non,
très
du
féminine.
Tout, oui, je sens, oui.
Et donc, il a été l'objet de beaucoup de moqueries au départ. Non, il s'agit certainement là aussi d'une affaire assez complexe et qui tient précisément aussi à la politique.
Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas que nous voyons, et même dans celui que je vais raconter maintenant, c'est-à-dire le célèbre cas de la demoiselle Savalette de Lange, il y a de bonnes raisons pour ces travestissements. On a l'impression finalement que les cas qui sont restés célèbres, qui sont entrés dans l'histoire, sont systématiquement des cas instrumentaux en quelque sorte. On y revient dans un instant.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au cas de Mademoiselle Savalette de Lange.
La marquise est morte. La nouvelle a fait le tour du quartier Saint-Louis à Versailles en ce jour de printemps 1858. Celle que les voisins et les commerçants ont pris l'habitude d'appeler ainsi n'était peut-être pas une vraie marquise, mais son nom à rallonge, Mademoiselle Savalette de Lange, valait pour titre de noblesse. La nouvelle de sa mort circule donc et fait le tour de la paroisse, mais pour autant, elle n'émeut pas grand monde. La demoiselle Savalette faisait partie de ces vieilles demoiselles plus ou moins survivantes de l'Ancien Régime, telles qu'on en trouve beaucoup à Versailles dans ces années-là. Elle n'avait plus de famille, très peu d'amis pour ne pas dire aucun. On la voyait parfois longer les murs à grandes enjambées, à moitié cachée sous des fichus noirs et sous un vieux châle gris tout râpé. Elle portait un bonnet à tuyaux démodé depuis un quart de siècle et présentait toujours la même apparence, été comme hiver, d'aussi loin qu'on ait pu s'en souvenir. Alors tout de même, les enfants du quartier, qui étaient intrigués par une amorce de moustaches et de barbe qu'on voyait parfois sous les fichus, l'avaient surnommée « Tante Barbe ». Et quand elle se promenait dans la rue, les garnements, bien entendu, ils lui couraient après en criant « Tante Barbe, Tante Barbe ». Autant dire que c'est une ombre qui a disparu en ce 6 mai 1858, osons le dire, dans l'indifférence à peu près générale. Et puis tout à coup, dans l'après-midi même, une autre nouvelle se répand dans cette ville bien endormie qu'est la Versailles du Second Empire. Mais cette fois, c'est une nouvelle fort inouïe, une nouvelle sensationnelle, une nouvelle qui retourne les commerçants, qui bouleverse le voisinage et qui, à coup sûr, va faire les choux gras de la presse. La nièce de la marquise et une des voisines, en venant faire la toilette mortuaire de la défunte, sont tombées à la renverse. Rendez-vous compte, la défunte était un défunt. Oui, c'est bien ce qu'on se répète de fenêtre en boutique. Mademoiselle Savalette de Lange était un homme. Le plus surpris dans cette affaire, et peut-être le plus ennuyé pour tout vous dire, c'est le médecin de quartier qui avait délivré 2 heures plus tôt l'acte de décès au nom de Mademoiselle Savalette de Lange. Il va devoir rédiger un nouvel acte déclarant le décès d'un inconnu ayant porté les noms de Henriette Jenny Savalette de Lange, célibataire sans profession, née On n'a pas pu identifier le nom de naissance. En l'année 1786, décédé, alors là il écrit décédé et, alors qu'il écrivait né et eux, il ne sait plus trop où il en est le pauvre médecin, décédé ce jour-là, 2h du matin, en sa demeure de Versailles, rue du Marché Neuf, numéro 11. Mais ce n'est pas tout. La brave nièce n'est pas au bout de ses surprises, car on peut dire que le quartier Saint-Louis non plus n'est pas au bout de ses surprises, parce qu'évidemment on se renseigne aussitôt, là ça devient un vrai sujet de conversation cette affaire. On découvre très bientôt dans le petit rez-de-chaussée presque insalubre habité par la défunte, enfin par le défunt, on va retrouver au milieu de la vaisselle ébréchée des meubles vétustes sans intérêt, quantité de billets de banque, de louis d'or, de titres de l'État. Il y en a en tout pour 150 000 francs or, une somme très importante qui peut-être ferait à peu près 1 million d'euros aujourd'hui. On trouve aussi un superbe couvre-lit de dentelle aux armes de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Le commissaire de police demande au conservateur du château, qui est l'éminent Eudore Soulier, de reconnaître l'objet. Et c'est en effet la courte pointe nuptiale du grand roi. D'ailleurs, Eudore Soulier va la revendiquer tout de suite au nom de l'État. On trouve aussi dans le capharnaüm ambiant un très gros paquet de lettres. Ce sont ces lettres que le bon Lenôtre, je vous en parlais tout à l'heure, découvrira un demi-siècle plus tard à Versailles dans l'étude de Maître Moussoir. Et c'est grâce à tout ce paquet de lettres, évidemment, que l'affaire va ressortir au tournant du XXe siècle. Ce qu'il faut peut-être vous dire, c'est que la famille Savalette de Lange a de grands antécédents. Ces gens-là étaient gardes du trésor royal sous Louis XVI. Leur héritier Charles-Pierre-Paul, au moment de la Révolution, est un personnage clé puisqu'il va prêter une grosse somme d'argent au comte d'Artois, le plus jeune frère du roi, au moment de son départ en exil, le 15 juillet 1789. On estime que dans les 6 mois suivants, il va en prêter encore davantage. Et en 1790, le comte d'Artois, qui donc en 1824 deviendra le roi Charles X, Artois doit à Savalette la bagatelle de 3,5 millions de livres, ce qui est colossal. Savalette, du fait de tous ses liens avec les émigrés, est arrêté en 1791. Il ne doit sa libération qu'à l'intervention de son ami Barère. Il faut vous dire qu'il est très introduit dans toutes sortes de réseaux et qu'il est le fondateur à Paris d'une loge maçonnique célèbre. Une fois libéré, il n'en doit pas moins donner des gages. Alors il va devenir trésorier de la Convention, ben oui, ça peut servir. Et on sait qu'il meurt en 1797, laissant derrière lui, à l'issue d'une vie pour le moins libre, 4 enfants reconnus, des enfants qui au départ étaient des enfants naturels, 3 garçons et 1 fille. Or, 7 ans plus tard, en 1804, on voit apparaître une jeune fille qui se fait appeler Jenny Savalette de Lange. Une jeune fille assez charmante, semble-t-il, puisqu'elle a intéressé un jeune homme. On possède, dans le fameux fond de lettres dont je vous parlais, une lettre de soupirant, on en a même 2. Dans celle-ci, le jeune homme renvoie un voile qu'elle avait oublié et il le précise qu'il le renvoie couvert de 1000 baisers que je croyais presque donner à celle que j'aime. Et c'est signé J.D. Jenny, vous l'avez bien compris, c'est celle que 50 ans plus tard, les habitants du quartier Saint-Louis à Versailles appelleront la marquise, que les enfants suivront en la traitant de tante Barbe, et dont on va découvrir qu'en vérité, elle était un homme. Alors, dès lors, 2 questions se posent. Qui était ce jeune homme qui s'est fait appeler Jenny toute sa vie? Et pourquoi a-t-il choisi de se faire passer pour une jeune fille?
Morte prepara, morte prepara. Tutto mi ispira rimorso e orror. Tutto mi ispira rimorso e orror. Rimorso e orror. Tutto mi ispira rimorso e orror.
Le contre-ténor allemand Andrea Scholl sur Europe 1 avec Pallido il Sole. Et à tout de suite pour la suite du récit de Franck Ferrand.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui s'intéresse aujourd'hui à la demoiselle Jenny Savalette de Lange, qui à sa mort s'est révélée être un homme.
Alors, premier indice, dès 1804, Jenny a connaissance de la double créance détenue par l'ancien trésorier royal. Je dis double créance parce qu'il y a cette créance sur l'État qui peut être mise en œuvre, dont on peut réclamer évidemment le remboursement dès l'époque de l'Empire. Et puis, il y a la créance privée, les prêts qui ont été faits aux frères de Louis XVI. Et là, il faudra attendre la Restauration, bien entendu. Du reste, à partir de 1814, avec le retour des Bourbons sur le trône, le frère aîné de, d'Artois, comte de Provence, devient le roi sous le nom de Louis XVIII. Dès cette époque, Jenny va obtenir une pension. Il faut dire qu'elle elle a su s'adresser à la bonne personne. Elle s'est adressée à la duchesse d'Angoulême, à Madame Royale. Elle l'a fait pleurer sur son sort. Et tout le monde se met à connaître et à recevoir cette mademoiselle de Lange qui devient peu ou prou, et nous allons entrer évidemment dans le détail dans un instant, on va y venir plus en... on va expliquer tout ça point par point, mais elle devient une habituée des salons aristocratiques jusqu'à la Révolution de 1830. Louis XVIII, pour augmenter sa pension, lui a tout de même fait demander un acte de naissance. Ça allait bien en peine de fournir un acte de naissance, mais Jenny, si je puis dire, se contentera d'un certificat de vie signé par plusieurs témoins. Elle bénéficie donc de pas mal de largesses, seulement elle doit donner des gages. Alors elle se fiance à un comptable, monsieur de Lesverne, ce qui lui permet de se doter de... d'abord de donner le change, et puis de se doter d'un certain nombre de documents officiels où elle figure sous son nom, Jenny Savalette de Lange. Elle laissera tomber Lesverne avant de l'épouser. Et évidemment, la nuit de noces aurait pu réserver quelques surprises au pauvre comptable. Le comte d'Artois, devenu roi, va octroyer une troisième pension à Jenny et un appartement au palais de Versailles, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le château de Versailles, qui venait d'être entièrement restauré, avait été transformé en, comment pourrait-on dire, j'allais dire, logement social. En tout cas, on y logeait d'anciennes familles d'émigrés que la monarchie voulait récompenser de leur fidélité. Elle fréquente cette Jenny tous les salons, je vous l'ai dit, jusqu'en 1830. Et puis là, d'un seul coup, c'est la fin des pensions. Mais elle a accumulé tout un magot qu'elle va faire fructifier en le prêtant à intérêt. Gare aux mauvais payeurs, comme ce lapissière qui, incapable de la rembourser, se voit sommé à son tour de se fiancer avec elle. Ça n'ira pas très loin, les fiançailles dureront 16 ans sans aboutir au mariage, faut-il le préciser. C'est sous le Second Empire que Jenny vient s'installer rue du Marché Neuf à Versailles, où elle mourra donc, où il mourra si vous préférez. Alors, notre énigme dans tout ça. Gosselin Lenôtre, à partir d'une lettre anonyme retrouvée dans le fameux fond moussoir, a cru pouvoir identifier qui était ce jeune homme. Selon lui, en 1792, Savalette, qui était effrayée par le tour qu'était en train de prendre la Révolution, se serait réfugiée en Bretagne avec sa fille Jenny, qui à l'époque avait 13 ans. En chemin, il aurait fait la connaissance d'un jeune homme anonyme qui se serait proposé de les guider, de les conduire jusqu'à Saint-Malo, peut-être même jusqu'aux îles anglo-normandes. Une fois arrivé à Saint-Malo, il se serait lié d'amitié avec une jeune fille noble que Savalette aurait accepté de conduire avec eux jusqu'en Angleterre. Alors ils ont pris place sur un navire qui devait les emmener à Plymouth, sauf que le capitaine leur a révélé qu'en vérité il les conduisait à Hambourg. Ce sera dès lors, je passe très vite, un exil terrible, sans moyens, la misère, la maladie. Savalette finit par mourir. Le jeune homme conseille alors à la vraie Jenny de s'adresser aux princes émigrés pour leur demander un peu d'argent. C'est donc les premiers courriers que reçoivent les princes. Elle tombe elle-même malade, cette Jenny, la vraie, elle meurt, et c'est alors que le mystérieux jeune homme aurait l'idée, pour récupérer la créance de Savalette, de se substituer à Jenny et de rentrer en France sous son nom et plus ou moins sous son apparence. Seul problème, la jeune fille noble dont je vous parlais, mademoiselle de Tinténiac, elle un jour reconnaîtra l'imposteur, le reconnaîtra, le culpabilisera, mais ne le dénoncera jamais. On en était là de l'énigme. Pour tout vous dire, Lenôtre va plus loin parce qu'il pense aussi avoir identifié l'auteur des lettres de chantage reçues par Tante Barbe. On en était là quand Alain Decaux, en 1970, a apporté de nouveaux éléments. Il avait lancé à la télévision un appel à témoignage à toute personne susceptible de posséder des renseignements sur la mystérieuse Versaillaise. Eh bien, non seulement Alain Decaux va recevoir par la famille de Tinténiac confirmation dans les grandes lignes du récit de Lenôtre, mais il est entré en contact avec la famille Savalette de Lange et ça lui a permis de découvrir un certain nombre d'autres éléments. Lesquels, vous allez me permettre, si vous le voulez bien, de faire durer un instant le suspense. Avant d'en venir avec Frédéric Pro à cette affaire Savalette de Lange, dont nous allons essayer de démêler les fils pour l'instant un peu encore trop noués, j'aimerais demander à Sylvie Stenberg, qui nous a fait l'amitié de rester pendant jusqu'à maintenant, comment il se fait que finalement les archives ne nous livrent que des cas de travestis qui avaient de bonnes raisons de se travestir. Est-ce qu'il n'y avait pas tout simplement des gens qui voulaient s'habiller en femme ou des femmes qui voulaient s'habiller en homme pour des raisons là psychologiques, disons?
Oui, il y en a. En fait, il y en a. Moi, j'en ai découvert un qui s'appelle Pierre-Aymon Dumoret, qui a vécu à peu près à la même époque choisie, et qui est un obscur gentilhomme de Bigorre et qui a eu un destin absolument tragique. On le connaît grâce à un procès qui a été fait ensuite, après sa mort, pour des raisons crapuleuses, enfin des raisons d'héritage, disons. Et lui manifestait en effet un désir de s'habiller en femme pour être une femme. Et il est mort d'une mutilation qu'il s'est infligée à lui-même pour devenir une femme véritablement. Donc ce sont des choses qui existent.
Mais qui sont très rares dans les archives.
Bon, qui sont difficiles à détecter.
Évidemment. Disons. Merci beaucoup Sylvine Steinberg de nous avoir ouvert l'esprit sur toutes ces questions du passé, mais qui sont aussi, bien sûr, et nous y venons, des questions du présent.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle.
Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Zaza Fournier sur Europe 1. Franck.
Sur l'homme-femme connu sous le nom de Mademoiselle Savalette de l'Ange, c'est un opuscule qui réédite une enquête menée par un certain Érail juste après la mort de Tant de Barbe, figurez-vous. Alors, c'était à une époque où on n'avait pas encore retrouvé le fameux dossier moussoir mis au jour par Gosselin Lenôtre et que Alain Decaux a repris dans les années 70 avec son enquête à la télévision. Je suis très heureux d'accueillir Frédéric Pro qui a préfacé cette réédition. Première réédition de ce document, en
Absolument.
Vérité.
Érail est un bourgeois versaillais qui, quelques mois après la découverte du corps de Savalette de l'Ange, entreprend d'explorer sa correspondance et il va racheter la faute de ce travesti en décidant d'attribuer l'argent obtenu par la vente de sa notice à une maison de Providence. Afin de purifier en quelque sorte ce péché de travestissement. Et Érail était naturellement très
grande
intrigué.
Grande rigueur morale derrière tout ça.
Grande rigueur morale. C'est un personnage qui évolue dans le milieu épiscopaliste versaillais. On connaît quelques écrits de lui qui signalent des liens d'étroite amitié avec des prélats versaillais et parisiens. Alors, concernant l'identité de cette demoiselle Savalette de l'Ange, les hypothèses les plus farfelues ont été se sont multipliées. Lorsque on découvre dans ce capharnaüm que vous avez décrit, ce bric-à-brac insensé composé de bergères Louis XVI déchirées, de fauteuils empire défoncés, de vieilles casseroles, 300 lettres, on découvre le couvre-pied du lit d'apparat de Louis XIV et cette pièce va favoriser toutes les folles, les spéculations les plus folles et sur l'acte d'apposition des scellés du dernier domicile de Savalette de l'Ange, un petit plaisantin va inscrire Louis XVII. Quelques mois.
C'est là qu'on voit à quel point on a fantasmé autour de l'identité. Non seulement l'identité sexuelle, mais l'identité à l'état civil, en quelque sorte, du personnage. Et pourquoi pas Louis XVII, après tout, puisqu'il possède la courte pointe nuptiale de Louis XIV, après
tout. On ne sait pas comment cette demoiselle est parvenue à se procurer ce couvre-pied qui a ensuite.
Ah, attention, vous dites cette demoiselle, mais on est bien d'accord que c'est un monsieur.
C'est un homme.
Oui, c'est ça, oui.
Je prends acte de cette vie passée sous les jupons de jeune fille, de femme, puis de vieille demoiselle. L'administration des domaines va tout de suite préempter cette pièce. Le Louvre en fera l'acquisition. D'autres hypothèses ont été formulées. Cet usurpateur aurait été en fait un maître chanteur qui aurait obtenu la comtesse de Saint-Romand des appuis afin de pénétrer le monde de la cour. Pour revenir à l'hypothèse de Louis XVII, on imagine mal que la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, ait consenti à son frère une pension de 800 francs.
Oui, non, je crois que là, on peut tout de suite tourner la page en quelque sorte.
Oui, oui.
Alors, l'autre fondeur, enfin, c'est pas l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a des lettres lettres qui se trouvent dans les deux fonds, c'est ce qui est un peu complexe. Mais en tout cas, les découvertes faites par Le Nôtre à la toute fin du 19e siècle mettent l'accent sur cette espèce de voyage un peu étrange. Alors ce qu'a découvert Alain Decaux, ça, Le Nôtre n'en était pas conscient du tout, c'est que le Charles Savalette de l'Ange dont on parle pour ce voyage ne serait pas le fameux père de génie, de la vraie génie, c'est-à-dire qu'il ne serait pas celui qui avait prêté l'argent au comte d'Artois, qui avait prêté de l'argent à la Convention, ce serait son propre père, c'est-à-dire le grand-père de génie en vérité. Lui, on sait, on a tous les actes qui permettent de le prouver, il est bien mort à Hambourg, en l'occurrence, et l'on sait aussi que génie est morte à Hambourg, mais que la demoiselle de Tintignac, qui aurait pu la reconnaître, était partie d'Hambourg elle-même avant qu'elle ne soit morte. Donc c'est assez confus. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a le fin mot de cette histoire?
Malheureusement, l'énigme persiste. C'est au romancier plutôt de s'emparer de cette histoire extravagante.
Oui.
Bien sûr. Et quelquefois, les historiens se prennent pour des romanciers.
Vous savez, cette émission sert de creuset pour les romanciers. Alors je sais qu'il y en a un certain nombre qui nous
qu'on
écoutent.
S'en parle de ces personnages.
Je les salue d'ailleurs. Qu'ils se mettent à leur, tout de suite à leur plume. Alors, comment avez-vous eu l'idée, vous, de rééditer ce document qui est assez étonnant et qui est dans son jus, hein, c'est ce qu'il faut le dire.
Absolument.
Vous le présentez,
oui, oui.
Mais il reste tel quel.
Absolument. Nous avons n'avons rien changé à la lettre, à cette notice que compose Erail. Erail qui est animé de ce que Michel Foucault appellera la volonté de savoir, c'est-à-dire que même au sein des sexualités dites périphériques, il va tâcher de trouver quelque chose qui explique le mystère de la sexualité. L'affaire qui nous intéresse ne relève pas d'une simple affaire de mœurs plus ou moins scabreuse,
non,
comme vous
non,
l'avez rappelé.
On est quand même largement dans l'arnaque, probablement.
Oui, oui, il s'agit d'un délit d'usurpation d'identité.
C'est ça, oui.
Et il semble que l'argent ait été le moteur de cette incroyable supercherie. Et comme vous le rappeliez,
150 000 francs
qui reviennent à l'État en succession, en déshérence. On retrouve effectivement plus de 22 000 francs en billets de banque, plus de 9 000 francs en pièces d'or, on trouve des rentes d'État. Ce que l'on a appris, ce que j'ai appris en consultant la correspondance de cette demoiselle conservée aux archives départementales des Yvelines, c'est que cette demoiselle pratiquait l'usure.
C'est-à-dire le prêt à intérêt colossal.
Absolument, c'est-à-dire qu'elle recevait de ses très nombreux protecteurs des sommes d'argent qu'ensuite elle prêtait à son tour à d'autres amis dans le besoin en leur imposant un taux d'intérêt.
On comprend qu'elle ait eu peu d'amis, qu'elle ait eu mauvaise réputation et qu'on se soit un peu moqué d'elle. Alors sur la fin, elle vit quasiment, on peut pas dire en fugitive, mais presque en clandestine, elle se montre très peu. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été traquée pendant les dernières années de sa vie?
Non, le mystère ne semble pas avoir été percé au long de ses 50 ans d'existence. En revanche,
oui, parce que la première occurrence c'est 1804,
son lettre de soupirant.
Et elle meurt en 58.
En 58,
donc c'est 54 ans quand même.
Oui, c'est une affaire remarquable par sa durée. Ce qui est intéressant dans le cas de ce personnage, c'est que le moteur va véritablement être l'argent va être le moteur de sa supercherie. Hein. Et elle va par exemple essorer. Un de ses soupirants, Delpy de la Cipière, auquel elle promet le mariage, à la condition que ce soupirant fasse d'elle sa seule créancière. Donc elle tâche de le serrer à la gorge afin de s'assurer de sa loyauté et de sa discrétion.
Oui, c'est un personnage quand même assez peu sympathique, disons-le. Alors, sur la couverture de cet ouvrage, dont je rappelle le titre, la réédition de cette enquête d'Erail qui s'appelle « Sur l'homme-femme connu sous le nom de Mademoiselle Savalette de l'Ange », vous avez fait figurer le sceau de Mademoiselle Savalette de l'Ange. C'est un sphinx sommé d'une étoile. On voit que jusqu'au bout, on sera resté dans cette affaire, dans l'énigme. Merci beaucoup Frédéric Pro et merci Sylvie Stenberg d'être venue nous parler de ce phénomène du travestissement. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts Europe 1, nous allons parler d'éducation alimentaire. On va surtout essayer d'aiguiser le goût de nos enfants qui n'aiment pas les légumes, qui adorent le Nutella. Alors j'ai une bonne nouvelle pour eux, le Nutella c'est pas bon, mais le ketchup c'est formidable. A tout de suite si vous avez des questions, 3921 ou europe1.fr.
Première révélation, merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Julia.
À demain sur Europe 1 Franck.